Nous avons terminé le premier jour de la retraite. Nous passons au deuxième jour. Le premier jour de la retraite, c'était un rappel du catéchisme de base sur l'espérance. Catéchisme qu'on apprend aux enfants entre l'âge de 5 à 7 ans. Et c'est bien ce petit rappel de la doctrine de l'Église. Vous savez que Jésus avait demandé à Marthe que les retraites des foyers de charité soient un rappel de la doctrine infaillible de l'Église. Ce sont des foyers de lumière, de charité et d'amour. Car l'Église s'approche de cette grande Pentecôte d'amour qui doit jaillir d'une mise à mort du corps mystique de l'Église dans l'histoire. Et la mise à mort du corps mystique du Christ dans l'histoire correspond à une impossibilité pour l'Église de proclamer ouvertement la doctrine infaillible. Et pourquoi je veux qu'il y ait des foyers de lumière, de charité et d'amour, où dans un esprit de famille et de silence, soit redite dans la prière cette doctrine infaillible, dans des retraites, et dans un esprit de petitesse et d'enfance. Et c'est pour ça que nous avons vécu ce premier jour, et on continuera, n'ayez aucune espèce d'inquiétude, à rappeler toujours la doctrine de l'Église. C'est très important de ne jamais quitter le Saint-Père. Jamais. À aucun moment. Et quand je dis Saint-Père, c'est les 269 papes qui s'en sont succédés. Je compte, pour ceux qui sont des spécialistes, du nombre de papes, n'est-ce pas? Je compte en plus les papes, n'est-ce pas, d'Avignon. Je compte Clément VII, par exemple. Ça fait 269. Saint Bernard et Saint Malachie les comptaient. Vous connaissez d'ailleurs cette histoire, cette prophétie de Saint Bernard et de Saint Malachie sur les papes. C'est beau, c'est assez beau ça je trouve, cette prophétie-là. Je l'aime bien moi. Elle est attribuée à Saint Malachie et en réalité, les cisterciens supposent, se disent comme ça, en dessous de table que c'est Saint Bernard. C'est chouette de savoir ça. Mais j'aime beaucoup Saint Malachie. Et c'est une simple prophétie, c'est simplement pour dire qu'il y a une succession apostolique et que l'Église rentre dans l'histoire et la bouche du Christ parle avec des mots qui se succèdent dans une cohérence qui va finir par toucher la fin. C'est sûr. Alors, il faut rester très profondément enraciné dans le cœur du Saint-Père, c'est-à-dire dans le cœur du Christ qui parle à la terre tout entière. C'est très important. C'est très important de garder cette grande tradition. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, vous voyez, il faut être fidèle à la tradition. Mais il ne faut pas rester fixé à la tradition. C'est ce qui a perdu les pharisiens. Et c'est ce qui les a fait tomber dans cette chose affreuse qui fait qu'ils ont crucifié le Messie. Parce qu'ils sont restés fixés. Tandis que la tradition, on l'aime. On n'est pas fixé à une tradition. Saint Thomas d'Aquin, il dit, on ne peut pas rester fixé à une tradition, sinon on trahit la tradition. La tradition, c'est quelque chose de vivant. La tradition, c'est des personnes vivantes. C'est le Christ vivant. Alors du coup, le gland, c'est formidable, vous vous rendez compte, si on était resté fixé à la tradition, à partir du premier pape, l'Église serait restée un gland. Le chêne, on n'aurait jamais vu. On n'aurait jamais vu un chêne. Jamais. Ah non, non, c'est pas la tradition de Saint-Pierre, donc on reste un gland. Non mais, ça me voulait gland, dis-moi. C'est sûr. Tradere et renovare. Ce que dit saint Thomas d'Aquin. Tradere et renovare. Ça, c'est secret. Il y a la tradition, mais cette tradition pousse de l'intérieur. C'est ça la fidélité à la tradition. On n'est pas fidèle à l'extérieur de la tradition. On est fidèle à cette poussée intérieure. C'est de l'intérieur de la tradition qu'on vit, de manière qu'elle se renouvelle, qu'elle fasse pousser des feuilles, des fleurs. Oh, catastrophe ! Les fleurs se fanent. Les fleurs se fanent. C'est épouvantable. Vite, tronçonneuse. Cet arbre avec des fleurs, c'est horrible. C'est les feuilles seulement. C'est dramatique. Les fleurs se fanent. Donc, vous voyez, c'est la preuve. Mais dis-donc doucement. Si les fleurs ne se fanent pas, quand viendra donc le fruit ? La tradition, c'est d'être fidèle, non pas à l'extérieur, visible, formel, de la tradition, mais c'est d'être fidèle à la sève, à la vie intime de cette tradition, c'est-à-dire à la contemplation de la très sainte Trinité et du Christ ressuscité dans la doctrine infaillible. Rappeler, reformuler, approfondi par le Saint-Père. Alors, il faut avoir un amour pour la tradition, c'est vrai, parce que c'est sorti de la bouche du Christ, ça a été redit par Marie pendant 20 ans avec Saint Jean. Saint Jean a reçu à nouveau de Marie ressuscitée dans l'Apocalypse une nouvelle formulation de cette doctrine. C'est à l'Apocalypse. C'est Marie qui se confesse. Marie s'est habituée à se confesser avec Saint Jean. Alors, une fois ressuscitée, elle continue. C'est l'Apocalypse. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à l'Apocalypse. Vie de Marie, retrouve quelque chose, voyez. Et tout le temps, il y a un renouvellement. Si on reste fixé, alors à ce moment-là, la tradition n'est plus vivante, elle devient métallique. Alors c'est un petit peu comme l'a fait Saragosse, on a dit, voilà, moi je veux préserver la tradition, avec ma baguette magique, c'est figé, ça y est, la tradition reste. C'est pas comme ça que le bon Dieu aime la tradition. Le bon Dieu aime une tradition vivante, lumineuse, contemplative, petite, pauvre, abandonnée. Est réceptif par rapport aux saisons. Et quand la saison devient froide, eh bien, les feuilles tombent. C'est comme ça. Et quand c'est l'heure de la fin du printemps, les fleurs se fanent. Et si tu prends les fruits quand ils sont encore amers, il ne faut pas les prendre encore. Les fruits quand ils sont mûrs et qu'ils sont prêts à tomber. Mais ne pas prendre les fruits quand ils sont mûrs, ce n'est pas la tradition. Donc il y a des heures pour l'Église. L'Église est un grand vivant qui grandit. L'Église, le corps mystique de Jésus, est vivant, donc il grandit. si vous voulez, il se renouvelle. Il se renouvelle tout en restant dans la même sève. Si, alors les deux fautes par rapport à l'espérance concernant l'Église, c'est ça. C'est je reste fixé parce que je ne vais pas tout. Je ne vis pas de la finalité profonde de toute l'Église. Et du coup, je refuse ces renouvellements, ces transformations intimes du corps mystique de l'Église. Je reste fixé à mes trucs comme ça. Ah, j'aime pas ça, allez. Je suis fixé, vous voyez, là aussi. Et le deuxième, c'est le renouveau pour le renouveau. Le renouvellement pour le renouvellement. Oh, ça, c'est ringard, ça, c'est périmé. Ça va pas, c'est nul, je veux dire, donc c'est pas du tout le monde d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui c'est tout à fait autre chose. Maintenant on peut bénir quand même les homosexuels dans le mariage, quand même, c'est vrai, il faut avoir de la charité, c'est ça, il faut suivre l'esprit du monde, le renouvellement, et j'abandonne tout de ce qu'il y avait avant. Les deux grimaces. Les deux cornes contre l'espérance de l'Église. Il faut rester dans la tradition. Et rester dans la tradition, c'est rester dans la doctrine de la foi. D'aimer la tradition, c'est de vivre de manière contemplative de cette doctrine mystique de la foi. Je veux des foyers de lumière, de charité, d'amour, pour que l'Église, mon Église, puisse engendrer le monde nouveau de la Pentecôte d'amour. Alors c'est pour ça. Et comment est-ce qu'on se renouvelle ? Par l'espérance. Ah, c'est beau ça. Tradere et renovare. On reste fidèle à la tradition par la foi vivante. Et on se renouvelle par l'espérance. C'est-à-dire en étant fixé sur la fin, sur le retour du Christ. Le monde dans lequel nous sommes, le monde de nos spiritualités, de nos sensibilités religieuses, disparaîtra. Ce ne sont que des moyens. Les moyens doivent disparaître, même les meilleurs moyens. Est-ce qu'il y avait un moyen plus grand, plus beau, plus extraordinaire que l'humanité sainte du Christ ? Dieu le Père a voulu que ce moyen-là lui-même soit détruit. Et qu'une fois qu'on serait détaché des moyens les plus beaux, les plus saints, les plus grands, l'Esprit Saint serait donné à l'humanité tout entière. Alors c'est pas à nous de détruire, hein. Mais si, ça, vous inquiétez pas, il y en a qui s'en chargent de ça. Mais si ça arrive, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et si cette coupe peut s'éloigner de moi avant que je la boive, c'est entendu. Mais que ce soit ta volonté qui se fasse. Alors à ce moment-là, on peut vivre de l'espérance. Tant qu'on n'a pas fait ce lâcher prise, on ne peut pas vivre de l'espérance aujourd'hui. On ne peut pas. C'est l'espérance qui nous renouvelle de l'intérieur et qui fait que, du coup, on retrouve les vérités de la foi dans leur épanouissement final. Et du coup, on reprend la tradition. Il y a une espèce de jeu entre l'espérance et la foi, entre la tradition et le renouveau qui est extraordinaire. Alors, si je refuse le renouveau, petit à petit, ma foi va devenir informe. Ça va devenir une foi métallique. Cristallisé. Et si je, Si dans l'espérance je refuse la doctrine infaillible de l'Église, la doctrine divine, la lumière surnaturelle, alors à ce moment-là, vous sentez bien quoi. À ce moment-là, mon espérance deviendra une espérance purement terrestre. Ce sera un messianisme temporel. Je chercherai la sainteté sur la terre, la sainteté de la terre. L'épanouissement uniquement terrestre. J'ai besoin du Christ pour être heureux sur la terre. Eh bien, ça n'est pas vrai. Les deux sont de très graves erreurs. Et c'est ça. Vous savez, hein, le deuxième jour, on est le deuxième jour, c'est bien, je suis content. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament qui séparait les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. C'est chouette, hein, on arrive au deuxième jour. On va baigner maintenant dans les eaux du firmament d'en haut. C'est sûr, ça. Il va falloir qu'on rentre dans le mystère de l'espérance. J'aurais voulu. J'ai tellement d'ambition, vous savez, que je. Je ne sais pas si nous pourrons faire tout, mais. Dieu sépare le firmament d'en haut, le firmament d'en bas, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, les eaux de la grâce, les eaux, et les eaux du ciel, la vie surnaturelle, et la vie. De sagesse, et de mystique, et d'union à Dieu, naturelle. Il y a deux grandes sagesses, deux manières d'être totalement uni à Dieu. Les eaux d'en bas, c'est l'adoration. Par l'adoration, je trouve en moi une capacité de retrouver mes sources. Je refuse plus ma condition de créature et du coup, je rentre dans la magnanimité, c'est-à-dire, je prends toutes les dimensions immenses de mon âme créée par Dieu. Elle est faite pour régner sur la terre tout entière, sur tout l'univers. J'adore mon Créateur. Je participe dans la lumière vivante, incarnée, de ma chair ouverte à la présence du Créateur. Je participe à l'acte créateur de Dieu, sur tous les temps et sur tous les lieux. Et tout se simplifie. Ce sont les eaux d'en bas. Et les eaux d'en haut, c'est la vie surnaturelle. Les eaux d'en haut, c'est ce que le Christ fait lorsqu'il ressuscite d'entre les morts. Il fait rentrer sa nature humaine dans la vivante tourbillonnement de ce que Dieu réalise dans un corps, dans un cœur, dans une âme remplie de sainteté, de manière que cette sainteté s'efface et qu'il n'y ait plus que la toute-puissance. Éternelle et incréée, celle qu'il y avait avant la fondation du monde, du bonheur éternel de Dieu d'exister dans un autre, en Dieu lui-même, pour qu'il n'y ait plus que Dieu, la très sainte Trinité. Et que ceci se réalise, que l'être humain soit réparé dans toutes ses relations d'être par la vivante transformation de la très sainte Trinité. Ce sont les eaux d'en haut, ça. Donc, c'est la fin. Et Dieu sépare les deux. Il faut distinguer les deux. C'est une une chose, il y a une vertu morale d'espérance, et la vertu morale d'espérance qui appartient à la sagesse naturelle, saint Thomas d'Aquin dit la vertu morale, donc naturelle, en sagesse naturelle d'espérance, s'appelle la magnanimité. Et la vertu surnaturelle d'espérance s'appelle l'espérance. Si je fais un acte d'adoration, j'existe, je suis sous la dépendance de la Créateur de Dieu, dans toutes les cellules de mon corps, dans mon être qui existe effectivement, et cette vivante présence du Père qui fait que j'existe, fait que je suis en dépendance totale de cette vivante activité créatrice de Dieu sur moi, qui me fait habiter partout où il crée, et j'habite corporellement l'omniprésence de Dieu, créatrice. Ça, c'est normal, le musulman fait ça, l'hindou fait comme ça, et c'est bon. On ne peut pas les condamner parce qu'ils adorent le Créateur. Ils font quelque chose qui est bon. Et du coup, ils deviennent magnanimes. Mais ils ne sont pas dans l'espérance. Ils voient les choses largement aux dimensions de Dieu. Mais ils ne vivent pas de l'espérance. Ça, il faut le comprendre, ça. Ils vivent d'une sainteté réelle. Mais c'est une sainteté naturelle. C'est très important de comprendre ça, parce que c'est ce que demande l'Esprit Saint. Il nous demande d'aimer le monde. Et on aime le monde parce que le monde a quand même en lui-même une capacité, sans l'espérance, sans la grâce sanctifiante, d'être, de réaliser la vocation de la nature à être entièrement dans la main de Dieu, du Créateur, et d'être entièrement soumis à Dieu, et que ce soit Dieu qui prenne entièrement la créature. Et que du coup, on devienne magnanime, c'est-à-dire qu'on vive de cet épanouissement suprême de notre humanité, qui est Dieu. Et ça, c'est une sagesse naturelle, Concile Vatican I. Ça fait partie de la tradition, ça. Celui qui dit qu'un homme qui n'est pas chrétien ne peut pas vivre de Dieu, celui-là a perdu totalement la foi catholique. 1870, Concile Vatican I. L'intelligence de l'homme, l'esprit de l'homme, sans la foi, sans la Bible, sans la révélation, sans la grâce sanctifiante, sans les sacrements, peut toucher l'existence de Dieu et en vivre. Mais ce n'est pas la grâce. Il y a les eaux d'en bas et il y a les eaux d'en haut. C'est important de comprendre ça. J'espère que vous saisissez le problème. Parce que de plus en plus, il va falloir qu'on s'affine. Parce que c'est là-dessus qu'on va être tenté. Si on fait la confusion entre les deux. Attends, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il dit qu'il vit de Dieu, mais il ne vit pas de Dieu. La preuve, il n'a pas lu Saint Jean de la Croix. Donc, il ne vit pas de Dieu. Pour moi, on ne vit de Dieu que quand on connaît Saint Jean de la Croix. Il ne connaît pas. Il ne faut pas être petit quand on est dans l'espérance. Il ne faut pas être petit au sens pusillanime, mesquin. Voir son truc avec son œuvre, là. Avec sa spiritualité, avec son truc. Dégage tout ça. Laisse tomber les feuilles. La sève, tout de suite. La sève multiséculaire qui s'est enracinée depuis Moïse. Et qui a poussé jusqu'au Christ total. on ne peut plus aujourd'hui, l'Esprit Saint ne le veut pas, le Christ ne le veut pas, s'arrêter à nos impressions religieuses, à nos coutumes, à nos impressions, à nos opinions. Ça, c'est contraire à la foi, c'est contraire à l'espérance. Et c'est évidemment contraire à la charité. Il faut, comme dit saint Thomas d'Aquin, recueillir toute cette grande tradition de l'Église et en vivre de manière à ce qu'elle s'épanouisse en nous dans un état suprême qui nous est personnel et qui est un renouvellement. Et du coup, on se dit, tiens, quelque chose de nouveau qui apparaît. Mais vous voyez, c'est enraciné, tradéré, être rénové. Il ne faut pas dire que si on est fidèle à la tradition, on est en retard. Mais non, si on est fidèle à la tradition, on est en avance. Si on est fidèle à la tradition, on a nécessairement au moins 40 ans d'avance. C'est sûr, ça. Il ne faut pas rejeter le Christ. C'est pour ça que c'est très très important de faire ces retraites, parce que du coup, on est obligé de laisser un petit peu tomber nos petites sécurités avec nos systèmes de défense. Vous voyez, on s'est construit une petite spiritualité, on a fait plein de petits systèmes de défense pour être protégé, quoi, pour pas perdre la foi, quoi, pour l'entretenir. On s'est mis dans un petit truc, quoi. On a bouclé les trucs, on s'est bouclé dans un truc, on s'est emprisonné dans un machin, quoi. C'est ça, c'est curieux, ça. On a peur. Alors, c'est d'un côté comme de l'autre, je veux dire. Alors on fait une retraite, allez, on dépose son cœur, son âme, son esprit, on fait confiance, et on demande à l'Esprit Saint, on demande à Marie, que ce soit elle maintenant, quoi, que ce soit plus nous. Que ce soit elle. Voilà, ça va être Marie, quoi. C'est Marie maintenant. C'est Marie qui fait l'unité de l'Église. C'est Marie qui fait vivre, mère de l'Église. C'est Marie qui fait vivre l'Église. C'est Marie qui fait vivre et qui fait que l'Église, c'est moi. C'est Marie, ça, qui fait ça. Si c'est Marie qui vit en moi, ça y est, l'Église est là. C'est fini tous mes petits, tous mes a priori, quoi. Tous mes systèmes de défense. Toutes mes exaspérations, j'y arrive pas avec ça là. Attends, Marie, elle est comment elle? Elle vit du Christ. Et elle est unie à tous les apôtres. Et tous les apôtres sont en elle, elle est dans le cœur de tous les apôtres, et elle les recueille, elle en fait un bouquet formidable. Dans l'unité, c'est Marie qui fait l'unité. D'ailleurs, vous le savez, le Concile Vatican II, par exemple, vous connaissez peut-être ce détail, je l'ai raconté à certains d'entre vous. C'est qu'il y a eu le Concile Vatican II, il est merveilleux le Concile Vatican II. Les autres conciles aussi sont merveilleux. Tout est merveilleux de toute façon dans l'Église. C'est génial. Il faut. Et il y a eu toutes sortes de décrets. Il y a eu 5 ans, 6 ans, Jean 23, puis après, pape Paul VI, n'est-ce pas? Et au début du Concile, il y avait un père dominicain qui lisait le russe. Et il lisait la Pravda. Et ça faisait la deuxième année, à peu près, du Concile. Il disait, quelle aubaine, les catholiques font le Concile. Nous allons nous arranger, et nous savons que c'est déjà commencé, pour faire en sorte que, grâce à ce Concile, et grâce à la propagande que nous en ferons sur toute la terre, l'Église soit divisée entre intégristes et progressistes, de sorte que l'Église sera animée dans ses débats intérieurs par la dialectique matérialiste de l'histoire. De sorte que, si nous sommes intégristes, ou si nous sommes progressistes, Nous ne sommes ni dans le Renovare, ni dans le Pradere. Nous sommes devenus communistes. Parce que le principe même de la mystique communiste, c'est de vivre dans la dialectique. C'est ça qui fait vivre. Je vis ma foi en sept contrats. À ce moment-là, c'est ça la victoire du dragon rouge à sept têtes et à 10 cornes de l'Apocalypse. C'est qu'à l'intérieur de l'Église, c'est pour ça que le pape Paul VI disait, le démon est rentré à l'intérieur de l'Église. Pourquoi ? Parce que c'est très étonnant, et en effet, c'est très étonnant qu'on voit qu'il y a cette espèce de méfiance tout le temps. Dialectique, c'est cette lutte des classes. Il y a la classe du tradéré et puis la trace du rénovare. Et là, ça fait deux classes, quoi. Et puis, et l'unité, au fond, peut-être la synthèse, ça donnera l'Église. Eh ben non, la synthèse de deux contraires ne donne pas l'Église. Ça, c'est marxiste de dire ça. On ne peut pas faire la synthèse. Thèse, antithèse, et du coup, l'Église, synthèse. Négatif, marche pas. Alors, qu'est-ce qui reste ? Et le pape Paul VI, il y a eu tous les décrets, il y a eu tous les... C'est merveilleux cette histoire, parce que... Il y a eu Gaudium et Spes, il y a eu le décret dogmatique, Lumen Gentium, le décret dogmatique, Dei Verbum, le décret pastoral, Gaudium et Spes, voilà les trois pièces principales de Vatican II. Et puis tout était fait, tout était bouclé, c'était merveilleux, c'était très beau. Il y a eu quand même quelque chose de fort hein, qui s'est passé là. Et puis, Marthe a fait dire au pape, ça on peut le dire ici, elle est passée par Guiton. On peut pas aimer, on peut ne pas aimer Guiton, mais elle est quand même passée par lui. Parce que il voyait le pape, il voyait Marthe. Et elle a dit à Guiton, dites au pape que Jésus veut que vous proclamiez maintenant Marie, mère de l'Église. Et du coup, le pape, à la fin du concile, a dit aux pères, à tous les pères du concile, tous les évêques qui étaient là, c'est impressionnant, hein, c'est dit, je veux consacrer, je veux proclamer Marie, mère de l'Église. Alors, il y a eu les percumes, les perconcars, les perxqui, le pex, le père machin, du corps, et puis, non mais non, ça va pas, c'est pas bon ça. Le Saint-Père a répondu, si on ne proclame pas Marie, mère de l'Église, si on ne proclame pas Marie de Mère-Louise, je ne signe aucun des textes du Concile. Il n'avait pas signé encore. Ce qui veut dire que si je veux lire de l'intérieur, d'une manière traditionnelle et nouvelle et renouvelante, je veux dire, le Concile Vatican II, je ne peux le lire qu'à une seule lumière. C'est dans la lumière de la maternité divine de Marie sur le corps du mystique du Christ tout entier. C'est la seule lumière d'interprétation de Vatican II. Il ne peut pas y avoir de synthèse. Il y a une source qui finalise tout. C'est tout à fait différent. Marie a engendré le Verbe devenu chair et Marie engendre le Verbe devenu corps mystique du Christ tout entier. C'est Marie qui, de l'intérieur, engendre le corps mystique du Christ tout entier. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors à ce moment-là, je peux, dans la lumière de cette vivifiante fécondité du mari, comprendre que tout ce qui est dit dogmatiquement, qu'on ne dise pas, c'est un concile pastoral, il n'y a rien de dogmatique. Premier décret, constitution dogmatique de l'Église. Et si on ne l'accepte pas, hein, alors référence à Vatican I, infaillibilité, hein, c'est qu'on n'est plus catholique. Et du coup, on se ramène à une sagesse naturelle. C'est pour ça qu'on défend ces credos. Et du coup, on rentre dans la pravda, sans le savoir. C'est une ruse incroyable. Mais si je vis de Marie, si c'est Marie tout entière qui est là, alors c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Vous voyez, si un jour vous avez l'occasion de faire une retraite sur, par exemple, l'Omen Gentium, premier décret dogmatique, vous voyez, l'Omen Gentium, c'est magnifique l'Omen Gentium. À la lumière de la maternité divine de Marie, alors à ce moment-là, ça devient enthousiasmant. On s'aperçoit que tout y est. Tout. Absolument tout. Tout ce qui a été défini dogmatiquement par tous les conciles précédents, tout, c'est pas compliqué, tout y est dedans, explicitement. Les autres conciles ont fait des définitions dogmatiques particulières, passagères, en fonction de... Tandis que l'Omen Gentium, Dei Verbo, toutes les définitions dogmatiques antérieures y sont. C'est la première fois dans un concile, il y a toutes les définitions dogmatiques en un seul corps. Mais c'est important de comprendre ça. Mais évidemment, il faut le lire dans le cœur de Marie. Parce que Marie a engendré le corps de Jésus avec Joseph, et avec Joseph rempli de gloire, c'est-à-dire avec nous, présents à Saint-Joseph, elle va engendrer l'unité de l'Église tout entière. Elle engendre, c'est ça Marie prenne, c'est ça Marie, vous voyez, c'est ça ces mystères de gloire et de résurrection. On va voir le rôle extraordinaire, extraordinaire, cette mission, cet renouvellement, cette tradition qui prend enfin un visage marial. Marie, mère de l'Église. C'est très important ça, parce que vous voyez, personne, aucun pape avant, n'avait osé proclamer que Marie était mère de l'Église. Que Marie soit mère de Dieu, d'accord. Hein? D'accord. Que Marie soit mère de Dieu, bon, d'accord. Bon, ça passe. Oh, ça fait trop longtemps qu'on a discuté ces choses-là. Ça fait 15 siècles, quand même 16 siècles, un concile d'Éphèse. On ne veut quand même pas avoir 1600 ans de retard. Hein. Donc, non, non. Mais Marie, mère de l'Église. Ça veut dire, vous faites partie de l'Église quand? Lorsque vous recevez la grâce sanctifiante. Et si Marie est mère de la grâce sanctifiante, à chaque fois que vous recevez la grâce sanctifiante, vous êtes dans le corps mystique de l'Église. Ça veut dire que c'est elle qui a engendré en vous cette grâce. Ça veut dire que nul ne peut recevoir la grâce si elle ne vient directement de Marie. Parce que dire Marie mère de l'Église et puis dire Marie médiatrice de toutes les grâces, c'était exactement la même chose. Mais si Marie est mère de l'Église tout entière, vous vous rendez compte, c'est ce que ça veut dire, c'est fou de dire ça. Pour certains, c'est inadmissible. C'est
C'est inadmissible de dire que Marie est mère de l'Église tout entière.
Ça veut dire c'est elle qui engendre, c'est elle qui proclame l'heure de la résurrection. Parce que la résurrection, c'est bien quelque chose qui se passe dans le temps. La grâce, c'est une irruption du divin dans le temps. La résurrection, ça s'est passé dans le temps. Marie, médiatrice de la résurrection, oh, c'est inacceptable. Marie, médiatrice de l'Eucharistie, c'est inacceptable. C'est le prêtre. C'est cette liturgie-là seule qui est origine de l'Eucharistie, du Saint-Sacrifice. Marie n'a rien à voir avec ça. Enfin, oui. Que Marie soit... C'est fou que soit Marie soit la reine et qui dit, et soit elle qui donne toute grâce. C'est très très fort ça, c'est très très fort. Alors chacun des chrétiens est le temple de l'Église tout entière. Notre corps est le tabernacle de l'Église tout entière, du corps mystique du Christ total. Et ceci n'est pas possible physiquement si ce n'est pas Marie qui engendre en nous ce corps mystique de Christ tout entier. Voilà ce que le Concile Vatican II dit. À ce moment-là, tout s'illumine. C'est très important ça. Marie est médiatrice de toutes les grâces. Marie, mais moi je trouve que c'est beau ça, hein, de savoir que le pape Paul VI a été, c'est pour ça que ça a été le pape probablement le plus persécuté, on peut dire, de toute l'Église. Par de l'intérieur. Il a été assassiné par tout le monde. C'est pas compliqué. Et je crois qu'il était heureux de ça. Qu'il avait été choisi pour être le pape agneau de Marie, médiatrice de toutes les grâces, Marie, mère de l'Église. C'est vrai, c'est très très émouvant. C'est pour ça que saint Bernard disait de lui que c'est la fleur des fleurs, flos florum. Une fois que il s'est éteint le jour de la transfiguration, pour qu'on reprenne. Transfiguration, pour qu'on reprenne le corps mystique du Christ. La première engendrement, c'est le corps originel. Le corps originel du Christ. Notre corps, à l'origine, était dans un état de transfiguration. Vous comprenez la question ? C'est que quand Jésus, le Verbe de Dieu, le Verbe s'est fait chair, d'ailleurs vous avez un petit document qui vous permet de méditer. Je vous suggère d'ailleurs de méditer pendant toute la retraite, parce que c'est le soubassement, hein, Saint-Joseph, hein, de l'espérance. C'est qu'effectivement, quand Jésus c'est le Verbe de Dieu a pris chair dans le sein de la Vierge Marie, eh bien, il a trouvé une maman, c'est sûr. Concile d'Éphèse, Marie, mère du Christ. Il a trouvé une maman. Son cœur humain a trouvé une maman. Mais quand le Verbe de Dieu a pris chair, c'est par l'opération du Saint-Esprit, effectivement, que cette Vierge toute pure et féconde s'est trouvée dans la fécondité incréée de Dieu lui-même. Parce que Dieu engendre Dieu. Dieu le Père engendre Dieu. Engendre Dieu vivant. Et donc, elle a été fondue dans Dieu le Père. Et les deux ne faisaient plus qu'un. Il n'y avait plus ni le Père, ni Marie. Il y avait autre chose. Il y avait la maternité divine. Vous mettez du bleu et du jaune ensemble, le bleu et le jaune disparaissent. Il n'y a plus que du vert. C'est pour ça que le vert est la couleur de la grâce dans la liturgie. Effectivement, le Père et Marie, dans sa plénitude de grâce, disparaissent dans l'unité absolue. Et ça fait la maternité divine de Marie. C'est l'unité de la maman avec le Père éternel, avec Dieu, qui produit la maternité divine de Marie. C'est magnifique ça. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. C'est fou, hein? C'est génial. Parce que nous, quand on fait un acte d'espérance, on rejoint cette plénitude de grâce de l'Immaculée Conception qui nous est donnée. Intégralement. Mon Dieu ne nous donne pas une partie de l'Immaculée Conception, il nous donne intégralement Marie. Voici ta mère. Et quand Marie à son tour se donne, elle ne donne pas une petite partie en disant je garde moi pour moi l'essentiel, je lui donne une petite partie. Il n'est pas capable de recevoir, tu comprends? Alors elle donne une petite partie ce qu'il peut. Non, elle donne tout ce qu'elle a. Tout ce qu'elle a. C'est les eaux d'en bas. Et le Christ en ressuscitant, il nous donne la présence du Père. Et c'est toute l'acte d'espérance, c'est de conjoindre la plénitude de grâce de l'Immaculée Conception dans notre corps et la présence incréée de Dieu qui engendre avec Marie Dieu lui-même à travers nous. C'est-à-dire le corps mystique de l'Église tout entière. Voilà comment Marie devient mère de l'Église. On disait, mais ça n'a rien à voir avec ma question. Si. Absolument. Directement. Pourquoi? Parce que Marie ne pouvait pas disparaître corps, âme et esprit. Et le Père en elle, éternel, si elle n'avait pas été mariée avec Joseph. Ça aurait été impossible. C'est pour ça que l'Écriture dit bien qu'il fallait le mariage avec un époux ajusté. Jusqu'à sa substance, à la paternité incréée de Dieu. Matthieu, chapitre 1, verset 19. Joseph, qui était un homme juste, et en grec, c'est Joseph, to dikaios esti. To dikaios on esti. Donc ça veut dire celui qui était juste, to on, le to, c'est to, c'est le, c'est l'article défini. Dikaios, c'est juste, et on, c'est l'être. Il était juste, le juste, on substantiellement. Ça veut dire que tout ce que la Bible, c'est un petit peu le principe de la contemplation de ce qui se passe à l'intérieur de Joseph, ça veut dire tout ce que dit la Bible sur la sadaka, sur le satik, sur tout ce qui est justice, ajustement, juste. Tiens, par exemple, Moïse était juste devant Dieu, s'applique d'abord et plus à Joseph qu'à Moïse, puisque Joseph réalise ça substantiellement. On peut lire toute la Bible pour comprendre Joseph. À partir de là. Le 19e verset de tout l'évangile qui nous dit ça. C'est d'une puissance très forte. Et que ce que dit le Saint-Père, c'est que quand le Verbe de Dieu a pris chair, il a pris dans le corps de Marie, qu'est-ce qu'il a pris dans le corps de Marie ? Pour assumer, ça j'aime beaucoup, ça je le dirai des centaines de fois, ça, jusqu'à ce que ça rentre. dans notre cœur, ça, et dans notre vie aussi. Qu'est-ce que Dieu a pris dans le corps de Marie lorsqu'il s'est fabriqué un corps? Il a bien fallu qu'il prenne en Marie. Il a bien fallu qu'il prenne en Marie quelque chose. Jusqu'à maintenant, on disait il a pris les parties les plus pures du sang de Marie pour se fabriquer un corps. On n'est pas beaucoup plus avancé, hein, n'est-ce pas? Alors, on sait très bien qu'il n'a pas pris l'ovule, un petit ovule, une gamète féminine. Ça, on le sait. C'est déjà défini, hein, par la dogmatique. Donc, on est fidèle à la tradition. Dieu n'a pas pris dans le corps de Marie une petite cellule féminine. Bon, il n'a pas pris non plus, on sait aussi, ça c'est une dogmatique aussi, il n'a pas pris non plus dans le corps de Marie une petite cellule, et puis en créant dedans, allez, les 23 chromosomes qui manquaient, qui ne venaient pas du père, puisque Joseph n'a pas donné la moitié du patrimoine génétique, ça tout le monde le sait, hein, j'espère. Bon. Que Joseph n'a pas donné la moitié du patrimoine génétique. Mais que l'opération du Saint-Esprit n'a pas consisté à donner et à créer un principe masculin manquant. Celui qui dit ça a perdu la foi catholique. Alors, s'il n'y a pas eu de principe masculin qui manquait, ça veut dire qu'il n'y a pas eu, c'est qu'il n'y a pas eu le récepteur du principe masculin manquant non plus. Donc il n'y a pas eu de principe féminin manquant au niveau des gamètes. C'est tout ce que ça veut dire, forcément, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, une chose est absolument sûre, c'est que, du coup, qu'est-ce que le bon Dieu a pris dans le corps de Marie pour se fabriquer un corps? Alors, retenez cette formule, elle est très belle. Le Verbe Dieu a assumé, c'est-à-dire il a pris à l'intérieur de Marie, il a assumé pour que ça devienne sien, et à part cela, il se crée un corps, qui a assumé dans Marie ce qui, dans le corps de Marie, appartenait à son unité sponsale, en une seule chair avec Joseph. Il fallait qu'il prenne ce qui était animé de l'intérieur du corps de Marie, par la présence personnelle, vivifiante, déterminante, lumineuse et physique, d'amour, de vie, de lumière et de grâce de Joseph. Alors du coup, ça illuminait, ça formait dans le corps de Marie quelque chose de son corps qui était d'elle, qui était de lui et qui était surtout de l'unité spontanée des deux. C'est ça qui était pris. S'il n'y avait pas eu cette l'unité totale de Marie, virginale, plénière, dans le sacrement de mariage avec Joseph, il n'y aurait pas eu d'incarnation. C'est une puissance, ça. Ça veut dire que finalement, ben Joseph est père par la médiation de Marie, hein, du Verbe incarné. Et du coup, et c'est dans cette unité sponsale avec Joseph que Marie a été le marchepied, comme dit le Père Ollier et Saint François de Sales, a été le marchepied, l'instrument, le sacrement, c'est-à-dire la présence réelle de la première personne de la Très-Sainte Trinité. Donc Marie, dans son unité sponsale avec Joseph, a rencontré le Père éternel par la grâce de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint s'est emparé de son corps, de Marie, et dans le corps de Joseph, dans cette unité spontanée avec lui, elle a été emportée dans la paternité éternelle de Dieu. Joseph, instrument du Père, ombre du Père, sacrement du Père, de la première personne de la Très-Sainte Trinité. Alors voilà, eh bien, vous comprenez bien qu'à ce moment-là, ben Jésus, c'est pareil, Jésus, avec ses yeux humains, avec son âme humaine, avec sa sensibilité humaine, avec son intelligence humaine, avec son extase affective humaine, avec son cœur spirituel humain. Lorsque il veut, et c'est ce qu'il dit, ce que je veux que mon père, c'est que j'aime mon père, et qu'il, quand il dit papa, et quand il dit papa, humainement, à son père éternel, à son père, à Dieu, première personne de la très sainte Trinité, son humanité ne peut passer que par le visage de Joseph, par le visage intérieur de Joseph, qui lui est to dikaios on. Il est ajusté substantiellement à la paternité incréée de Dieu. C'est sa grâce. C'est très mystérieux parce qu'il a aussi le péché originel. C'est une très grande puissance, le mystère de Joseph. Et vous savez, tous les saints de Saint-Hilaire, Saint-François de Sales, Saint-Vincent de Paul, etc., ont prophétisé, Saint-Jean-Eudes, que c'est seulement dans l'Église de la fin des temps que Dieu permettra qu'on puisse vivre de Saint-Joseph. Parce que ce mystère est beaucoup trop grand. Si on n'est pas contemplatif, c'est pas la peine d'essayer. C'est tout intérieur. C'est incarné, mais c'est tout intérieur. C'est vrai. Alors, c'est bien que quand je suis... c'est ce qu'on vient de méditer comme mystère, le mystère de la résurrection, le mystère du tombeau et de la résurrection. Quand Jésus meurt... C'est quelque chose de très très étonnant quand Jésus meurt. Posez-vous la question, posez-vous tout simplement comme un enfant la question. Comment ça, quand Jésus meurt sur la croix, il dit il faut que je sache que j'aime mon Père. Alors il s'arrache, son âme humaine s'arrache à son corps. S'il avait été dans le sein du Père avec son âme, mais aussitôt son corps serait disparu de la croix, il serait ressuscité aussitôt. Comment ça se fait que ça aurait été 36 heures 36 heures dans les limbes. Tout de même, qu'est-ce qui s'est passé là? Il faut que le monde sache que j'aime mon Père. Alors, il est parti. Et pour l'humanité, attention, l'humanité sainte de Jésus, pas la divinité du Fils, la personne du Fils, mais l'humanité. Il y a deux natures dans le Christ. Toute la nature humaine de Jésus, toute la nature humaine du Christ, toute l'humanité sainte du Christ, remplie de sainteté, s'arrache de son corps et va rejoindre son Père. Et il ne peut le faire que dans l'âme de son papa, l'âme humaine de son papa. Il est allé rejoindre l'âme humaine du Fils, est allé rejoindre l'âme humaine du Papa, du Christ. Et du coup, l'âme humaine était portée par Dieu le Fils, a été rejoindre l'âme humaine déchirée par l'agonie, qui restait dans les limbes, dans une croix glorieuse de Joseph. Et du coup, quand l'âme humaine de Jésus a connu cette charité infinie dans l'âme humaine de Joseph dans les limbes, cette unité de l'âme humaine du Fils et de l'âme humaine du Père a permis à la personne du Père et à la personne du Fils dans cette unité de glorifier le mystère de la croix et de transformer la croix sanglante en croix glorieuse. Et ça a duré 36 heures. Et aussitôt, ce glaive étonnant de la croix glorieuse est venu traverser de part
symbiose. Ils traversent totalement, substantiellement, et puis de part en part. Père transhibit gladius se clève la croix glorieuse et va déchirer l'âme de Marie, transpercera ta nevège, c'est-à-dire ton âme et ton corps, parce que Marie, elle, elle est encore avec son corps. Et c'est là qu'il y a la transverbération du cœur de Marie. Mais s'il n'y avait pas eu l'unité de l'âme de Jésus et de l'âme de son papa, permettant à l'unité du Père et du Fils éternel de se réaliser dans le temps, il n'y aurait pas eu transverbération du cœur de Marie, qui a eu lieu. Quand il y a eu transverbération du cœur de Marie, vous ne savez pas ce que l'Esprit Saint a fait? Il a pris un soldat, il lui a tourné la tête, il lui a... Ça lui a pris une idée fixe folle. Il a pris une lance. En même temps. Et il sortit de l'eau. Le sang et l'Esprit Saint. Parce que l'unité du Père et du Fils, c'est l'Esprit Saint. Sans Joseph, vous pouvez toujours courir. La croix sanglante ne peut pas se transformer en croix glorieuse. Et du coup, il n'y a pas de transverbération du cœur de Marie. Et du coup, la fécondité universelle, catholique, de Marie sur le corps mystique total du Christ ne peut pas se réaliser. Et donc, quand le pape Paul VI a déclaré que Marie était mère de l'Église, il a fait un acte prophétique. Il a déclaré, en fonction de son infaillibilité, que l'Église était arrivée à l'heure suprême. Et qu'il a dit ce que disait Marc pendant toutes les années de sa vie, que l'Église doit rentrer dans le mystère, où elle réincarne universellement dans l'unité totale la mort du Christ. La blessure du cœur, le silence de Jésus sur la croix, l'intégration de la croix glorieuse, la transverbération du cœur de Marie. Et la stupéfiante attente de l'heure de la résurrection. Et l'Église est arrivée à son heure. Jésus a dit, Marie est ta mère. Et l'Église arrive en 1967 à dire Marie. Voilà, l'Église, c'est le Christ qui dit à toute l'Église, Marie est ta mère. Donc ça veut dire, on est arrivé à l'heure de la croix. Je crois que c'est très important ça. Donc vous voyez bien, à maintes fois, vous avez dit que Jésus avait pendant son humanité une relation, oui, à Joseph qui se confondait. Qui se confondait presque ou tout à fait avec celle qu'il avait au Père Céleste. Mais oui, quand Jésus, regarde, Jésus leva vers les yeux vers le ciel et il dit, papa, Abba, Père. Pourquoi est-ce qu'il regarde les yeux vers le ciel? Il n'a pas besoin de regarder vers le ciel, hein. C'est parce que quand, dans son humanité, quand il est petit enfant, il regarde toujours vers Saint-Joseph, c'est à travers Saint-Joseph. C'est son humanité, hein, qui touche Dieu le Père à travers Saint-Joseph. Saint Joseph, c'est pas seulement une icône, hein, c'est pas seulement une icône pour Jésus. C'est le tabernacle par lequel il veut passer pour rentrer vers le Père. Donc il doit passer par le péché originel. Et s'il n'y avait pas Saint Joseph, l'incarnation n'aurait pas projeté dans le péché originel universel, donc n'aurait pas projeté sur la croix. Sanglante et profonde. Et Joseph le sait, ça. Qu'il est le seul qui donne dans l'unité profonde avec Jésus et Marie. Celui qui lui donne cet impératif absolu de retourner vers le Père à travers la croix sanglante et à travers la croix glorieuse. C'est ce qui a tué Joseph. Mais il l'a accepté. Et Jésus a voulu faire la volonté de son papa. puisque le plus grand désir de son papa, c'est que tous ceux qui le représentaient, c'est-à-dire toute la création, blessée par le péché, soient réintégrés dans la paternité incréée de Dieu et dans la gloire. Et tout ça, ça vient de Joseph. C'est à Marie qu'on doit le mystère de l'incarnation. C'est à Joseph qu'on doit cette intégration de tous les pécheurs dans le mystère de la croix. Et donc c'est normal que Jésus regarde la volonté du Père à travers Joseph. Ce que le Père veut, je le fais pareil, dit papa. Et comme Jésus vit en nous, et que l'on veut qu'il n'y ait que Jésus qui vive en nous, et bien la plus belle prière qu'on puisse faire, prière incarnée et sainte, c'est de regarder vers le haut, voir Joseph et dire papa. Et à travers lui, exploser dans la paternité incréée de Dieu et voir que le Verbe est présent. Il faut savoir dire papa à Saint Joseph. Pas nous, mais que le Christ fasse papa. Et du coup, on explose. On passe des eaux d'en bas en disant papa à Saint Joseph, et en même temps, on met des eaux d'en haut.